Le bourgeois d'Abbeville ou la housse coupée en deux. Ceux à qui la nature a départi quelques talents devraient bien, pour amuser leur seigneur, s'exercer à mettre en fable ou en roman toutes les aventures jolies qu'ils apprennent. Dans un grand château où chaque jour vont et viennent tant de gens de toutes conditions et de tout pays, on entend compter 1000 historiennes agréables dont on pourrait aisément tirer parti. C'est ce que faisaient nos devanciers, aussi ont-ils acquis du renom qui leur a survécu. Si nous voulons en avoir à notre tour, suivons leur exemple et craignons point la peine, car il en coûte pour faire de jolis récits. Malheureusement, on devient paresseux. Nos ménétriers se contentent de leurs vieux contes. Ils ne se piquent plus, comme autrefois, de ragaillardir les auditeurs par des nouveautés. Eh bien, je vais, moi, messieurs, vous en donner une. C'est une aventure arrivée il y a 19 à 20 ans à un riche bourgeois d'Abbeville. Il était fort riche en argent, meubles et maisons. Mais il entra en querelle avec une famille puissante et la crainte qu'il en eut d'en être persécuté lui fit prendre le parti de renoncer à sa ville et de venir s'établir à Paris avec sa femme et son fils. Là, il fit hommage au roi et devint son homme. Quelques connaissances qu'il avait en fait de négoces et dont il profita pour établir un petit commerce, lui aidèrent encore à augmenter son spécule. On l'aima bientôt dans le quartier parce qu'il était officieux et honnête. Il est si aisé, quand on le veut, de se faire bien voir. On n'a besoin pour cela que de bonne volonté. Souvent, il n'en coûte pas une obole. Le prud'homme passa ainsi 7 années, au cours desquelles Dieu retira à lui sa femme. Il y en avait 30 qu'ils étaient unis, sans avoir eu ensemble le moindre différent. Le fils, pendant plusieurs jours, parut si affligé de cette perte, que le père se vit obligé de le consoler. « Ta mère est morte, lui dit-il, c'est un grand malheur, sans remède. Prions Dieu seulement qu'il lui fasse miséricorde. Nos pleurs ne nous la rendront pas. Moi-même, j'irai bientôt le rejoindre, il faut s'y attendre. À mon âge, on ne doit plus se flatter de vivre longtemps. C'est de toi, maintenant, beau-fils, que dépend ma consolation. Tous mes parents et amis sont restés en Picardie. N'ai personne ici que toi. Tâche de devenir un joli sujet. Et si je trouve une fille sage et bien née, dont la famille puisse me fournir une société agréable, je te la donnerai en mariage, et je finirai près de vous, de mes vieux jours. » Or, dans la même rue que le bourgeois, et toute vis-à-vis de lui, logeaient 3 frères chevaliers, gentilshommes de père et de mère, et tous 3 estimés pour leur valeur. L'aîné était veuf et avait une fille. Toute cette famille était pauvre, non qu'elle fût née sans fortune, mais dans un moment de détresse, elle avait été obligée de recourir à des usuriers. La dette, capital et intérêt, était vite montée à 3 000 livres, et les biens de ces pauvres gens se trouvaient engagés aux saisies. Il ne restait guère au père que la maison qu'il habitait. Elle était si bonne qu'il eût pu aisément la louer 20 livres. Mais il aurait mieux aimé la vendre, mais il ne la pouvait pas parce que c'était un bien de sa femme qui de droit revenait à la jeune fille. Le bourgeois alla demander aux 3 frères la main de la demoiselle par son fils. Ceux-ci, avant de lui répondre, voulurent savoir quelle était sa fortune. Autant en argent qu'en effet, répondit-il, je possède 400 livres. Tout cela a été acquis très loyalement. J'en donnerai dès à présent la moitié à mon fils, et il aura l'autre moitié après ma mort. Beau sire, reprennent les frères, ce n'est pas là ce qu'il nous faut. Vous promettez aujourd'hui de laisser à votre fils, après vous, une moitié de vos biens. Vous le promettez de bonne foi, mais n'en doutant pas. Mais d'ici à ce temps-là, l'envie n'a qu'à vous prendre de vous faire moine ou templier. Vous donnerez alors tout au couvent. Vos petits-enfants n'auront rien. Les trois frères exigèrent donc que le bourgeois fit, avant de conclure, une donation entière de tout ce qu'il possédait, sinon il se refusait au mariage. Le bonhomme, de son côté, résista tant qu'il put à de pareilles conditions. Mais l'amour paternel l'emportant enfin, il consentit à se dépouiller. En présence de quelques témoins qui furent convoqués dans la maison, il renonça solennellement à tout, sans se réserver seulement une écuelle pour déjeuner. Ce fut ainsi qu'il se mit dans la dépendance de ses enfants et qu'il se donna lui-même le coup mortel. Hélas, s'il avait su quel sort lui était réservé, il eût eu vraiment grand garde vraiment de s'y abandonner. Les deux époux eurent un fils qui crut en âge et qui annonça beaucoup d'espoir et de bonne qualité. Le vieillard, pendant ce temps, vécut tant bien que mal à la maison. On l'y souffrait, parce qu'il gagnait encore quelque chose par son industrie. Mais avec les années, les infirmités s'accrurent. Il devint hors d'état de travailler. Et alors on le trouva incommode. La dame, surtout, qui était orgueilleuse et fière, ne pouvait le souffrir. Chaque jour, elle menaçait de se retirer si on ne le renvoyait pas. Et elle persécuta si fort son mari que l'ingrat, oubliant ce qu'il devait à la reconnaissance et à la nature, vint signifier à ses malheureux pères de chercher ailleurs un asile. Beau fils, que me dis-tu? S'écria le vieillard. Quoi, je t'ai donné le fruit de 60 années de sueur? Je jouis, tu jouis par moi de toutes les aises et par récompense tu me chasses. Peux-tu donc me punir de t'avoir trop aimé? Au nom de Dieu, cher fils, ne m'expose pas à mourir de faim. Tu sais que je ne peux plus marcher. Accorde-moi dans ta maison quelques coins inutiles. Je ne te demande ni du lit, ni les mets de la table. Un peu de paille jeté sous cet appentis, du pain et de l'eau me suffiront. À mon âge, il faut si peu pour vivre. Et d'ailleurs, avec mes infirmités, et mes chagrins, je ne te serai pas longtemps à charge. Si tu veux faire l'aumône en expiation de tes péchés, eh bien, fais-la à ton père, en est-il un plus juste. Cher fils, rappelle-toi tout ce qu'il m'en a coûté de soins pendant 30 ans pour t'élever. Songe à la bénédiction que Dieu permet à ceux qui en auront ici-bas leurs parents, et crains qu'on ne te maudisse à jamais, si tu oses devenir toi-même le meurtrier de ton père. » Ce discours touchant émut le fils, mais il allégua l'aversion de sa femme, et pour le bien de la paix, il exigea que le vieillard sortît. « Mais où veux-tu que j'aille ?» répondit le prud'homme. Des étrangers me recevront-ils quand mon propre fils me rejette? Sans argent et sans ressources, il faut donc que je mendie le pain dont j'ai besoin pour aujourd'hui, pour ne pas mourir. Et en parlant ainsi, la face du vieillard était baignée de larmes. Il prit néanmoins le bâton qu'il aidait à se soutenir et se leva en priant Dieu de pardonner à son fils. Mais avant de sortir, il demanda une dernière grâce. « L'hiver approche, dit-il, et si Dieu me condamne à vivre encore jusqu'à ce temps, je n'ai rien pour me défendre du froid. La robe que je porte est tout en lambeaux. » En reconnaissant de toutes celles qu'il m'a fallu de fournir pendant ta vie, beau fils, accorde-moi une des tiennes. Je te demande que la plus mauvaise, ce que tu ne veux plus porter. » Cette légère faveur lui fut encore refusée. La femme répondit qu'il n'y avait point la maison de robe pour lui. Il demanda au moins l'une des deux couvertures qui servaient pour le cheval. Et le fils, voyant alors qu'il ne pouvait s'en défendre, fit signe à son propre fils qui se trouvait là d'en apporter une. Celui-ci n'avait pu voir sans attendrissement les adieux de son grand-père. Il avait 10 ans, et je vous ai déjà dit qu'il était plein de bonnes qualités. Il alla prendre à l'écurie la meilleure des housses, la coupa en deux, et vint en apporter la moitié au vieillard. « Mais tout le monde veut donc ma mort !» s'écria l'aïeul en sanglotant. « J'avais obtenu ce faible soulagement pour ma misère !» Et on me l'envie. Les fils ne purent s'empêcher de gronder l'enfant, d'avoir outrepassé ses ordres. Pardon, sire, répliqua le jouvenceau, mais je soupçonnais que vous vouliez faire mourir bientôt votre père, et je voulus vous seconder votre intention. L'autre moitié de couverture, au reste, ne sera pas perdue. Je la garde pour vous la donner quand vous serez devenu vieux. » Ce reproche si adroit frappa le fils coupable. Il sentit ses torts, et se prosternant aux pieds de son père en lui demandant pardon, il le fit rentrer dans la maison, lui mit en main tous ses biens et se conduisit à son égard, dans la suite avec le respect et les soins qu'il lui devait. Retenez bien cette histoire, vous autres pères qui avez des enfants à marier. Soyez plus sages que celui-ci, et n'allez pas, comme lui, vous jeter en un gouffre dont vous ne pourriez plus sortir. Vos enfants auront pour vous de l'amitié, sans doute, et vous devez le croire. Mais le plus sûr, cependant, est de ne pas vous y fier. Qui s'expose à défendre les autres s'exposent nécessairement à bien des larmes.